Il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, nouveau numéro et dernier numéro de la saison, mais nous n'allons pas vous laisser comme ça, nous ne pouvions pas vous laisser comme ça, puisqu'aujourd'hui, avec Philippe Boyer, nous allons parler vacances. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna. Oui, un peu en avance sur le calendrier, nous allons aujourd'hui partir en vacances avec l'invité de cette émission. Mais d'ailleurs, et pour se mettre dans l'ambiance, écoutez plutôt, on s'y croirait presque. Pourquoi partons-nous en vacances ? Question que l'on se pose toutes les années à peu près à la même époque lorsque les jours commencent à grandir et que les mois de juillet et d'août se profilent. Question centrale si l'on est lorsqu'il s'agit de choisir sa destination pour espérer y trouver le cocktail parfait entre soleil, quiétude, sport, repos, tout ça pour recharger ses batteries et faire le vide comme le suggère d'ailleurs la racine latine du mot vacances, vacuum, autrement dit ce vide sidéral, ce plaisir de ne rien faire, far niente. Pourquoi partons-nous en vacances donc ? Pourquoi avons-nous besoin de ce vide ? Est-ce pour se fuir à soi-même ? Est-ce pour le dépaysement ? Est-ce pour le plaisir de se sentir exister ? Ou plus simplement la joie d'envoyer des cartes postales, tout du moins à une époque où nos smartphones n'étaient pas encore équipés d'un appareil photo ? Sans doute, un subtil mélange de tous ces ingrédients. Et c'est d'ailleurs pour parler de ce cocktail-là, vacances, dépaysement, repos, entrepreneuriat, que nous avons la chance d'accueillir un grand monsieur du tourisme et des vacances. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Serge Trigano.
Bonjour.
Nous sommes ravis et honorés de vous accueillir à ce micro, mais avant que nous ne parlions du tourisme, vu au travers de votre saga familiale, la famille Trigano, le Club Med, cofondé par votre père Gilbert, et plus récemment le lancement de la chaîne hôtelière Mama Shelter, nous avons coutume d'entamer cette émission par un court extrait sonore. Ici, vous allez l'entendre, on va parler voyage au travers de la voix du grand ethnographe Claude Lévi-Strauss, qui en 1955 publia Triste Tropique, livre dans lequel il mêle souvenirs de voyage et anthropologie. Il y a cette toute première phrase qui résonne avec le thème de l'émission de ce jour, « Je hais les voyages et les explorateurs ». Écoutez, nous sommes en 1991 et Claude Lévi-Strauss est interrogé par le journaliste Bernard Rapp. On écoute.
Claude Lévi-Strauss, avez-vous vraiment détesté les voyages autant que vous l'avez prétendu ?
Vous savez bien qu'on ne peut pas répondre de façon simple. Bien sûr, enfin, les périodes de mes voyages dans l'intérieur du Brésil, ce sont les plus belles années de ma vie. Et quand j'ai écrit « Je hais les voyages ».
C'est la première phrase de Triste Tropique qui vous a presque rendu prisonnier.
Mais comment donc ? Qui a fait que le docteur Rivet, qui était le patron de cette maison à l'époque, m'a fermé sa porte au nez ?
Ah bon ?
Oui, parce qu'il n'avait pas lu plus loin. Et...
Je vais les voyages et les explorateurs.
Mais c'est, je dirais, une expression polémique, qui est tout de suite expliquée par la suite. Je voulais me désolidariser de cette vogue... des voyages et des explorateurs, des conférences de la salle Pleyel, enfin on sait plus ce que c'est aujourd'hui, mais tout Paris courait chaque semaine salle Pleyel, et c'est grand la salle Pleyel, pour écouter quelqu'un qui venait raconter ses aventures au Tibet ou en Afrique centrale.
Ses récits de voyage.
Oui, ou ses récits de voyage, et c'est de cela que je voulais me désolidariser. Je voulais montrer que pour l'ethnologue, le voyage n'est pas un but, que c'est un moyen. Un moyen indispensable, et que ce qui compte, ça n'est pas du tout le côté touristique, si vous voulez, c'est ce que nous rapportons de connaissances et d'informations.
Je dis ça parce que dans une interview, dans un long livre d'interview avec Didier Ribon. Il y a quelque chose que je trouve qu'on n'est pas beaucoup...
Il y a eu cette question, pourquoi partons-nous aux vacances? Et puis cet extrait qu'on vient d'écouter, Je vais les voyages et les explorateurs. La première question que l'on a envie de vous poser, Serge Trigano, à vous, ce grand professionnel du tourisme, c'est celle du où voyagerons-nous dans ce fameux monde d'après, si tant est qu'il existe un jour? C'est une question vertigineuse quand on sait que le tourisme pèse 10% du PIB mondial. Alors, question simple et évidente, en quoi cette crise sanitaire que nous avons traversée a accéléré les transformations en cours dans l'hôtellerie? Récemment, dans une chronique, Jacques Attali parlait de moins de tourisme et plus d'hospitalité. Est-ce que c'est ça l'hôtellerie post-Covid?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce que cette crise nous a appris, c'est l'humilité. Tout le monde s'est trompé. Tous les spécialistes, tous les médecins, tous les épidémiologistes se sont trompés. Et il n'y a pas de raison que les gens du tourisme ne se trompent pas. Donc on ne sait pas quelles vont être les réactions des gens. On nous disait que ça repartirait en 2024-2025. Aujourd'hui, les avions sont pleins. On trouve pratiquement plus une place dans les hôtels autour de la Méditerranée. Donc c'est en train de repartir beaucoup plus vite que ce qu'on l'avait imaginé. On a une telle envie de sortir, de voyager, pour reprendre ce que vous venez de nous passer comme extrait, qu'il est difficile de faire des plans sur la comète. Moi, je crois que le voyage, il est en nous, il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Moi, mon rêve de voyage, c'est de partir avec mes enfants, mes petits-enfants, dans n'importe quel endroit du monde, tant que je suis avec eux. Pour d'autres, c'est d'aller découvrir des lieux privilégiés. Il y a aujourd'hui tout un discours que je trouve absolument insupportable sur la critique du voyage de masse, en oubliant que le voyage de masse, c'est un voyage populaire. C'est des gens qui ont accès au voyage, qui sont très heureux, pour qui le rêve, c'est d'aller une fois à Venise, d'aller une fois à Paris. Je vois pas pourquoi on devrait mépriser ces gens-là. Il y a eu des excès dans notre métier, il y a eu des erreurs de fait. On est en train de les corriger. Les compagnies aériennes sont en train de les corriger. Airbus est en train de sortir des avions qui vont beaucoup moins polluer. Les croisiéristes vont trouver des moyens de moins polluer les mers. Mais respectons tous ceux qui ont envie de voyager. Voilà. Donc le voyage, il est différent pour chacune et chacun d'entre nous. On est trois autour de la table. On a sûrement trois rêves de voyage et de vacances différents. Et il faut respecter les choix des autres.
On en vient au cœur de votre saga, hein, votre histoire de famille, celle que vous avez décrite dans le livre dont nous parlait Philippe tout à l'heure, Trigano Loves You, qui est paru aux éditions Albin Michel. Un livre qui nous fait voyager, hein, puisqu'il retrace la création du Club Med par votre père Gilbert et puis l'aventure Mama Shelter que vous avez démarré il y a 13 ans déjà avec vos deux fils. Alors quand on lit le livre, on est frappé, hein, par le fait qu'il s'agit bien sûr d'un témoignage, hein, qui raconte votre famille et puis cette saga entrepreneuriale, mais peut-être également un livre de management, puisque tout à la fin vous livrez les clés de la réussite à la fin du livre pour qui veut se lancer dans l'hôtellerie, mais plus largement dans le business. Alors pour vous, il y a trois clés: travailler en famille, raconter une belle histoire et suivre ses intuitions. Est-ce que vous diriez, Serge Trigano, que ces trois règles universelles sont universelles pour qui veut réussir dans une activité comme la vôtre?
Non, sûrement pas. Je dis simplement que c'est ce qui nous a réussi à nous. Vivre en famille, travailler en famille. D'abord, ce n'est pas uniquement le lot des Trigano. Les plus belles sagas hôtelières sont des sagas familiales.
C'est quand même réputé difficile de travailler en famille.
Oui, c'est faire des compromis, mais en même temps, c'est une relation de confiance formidable. On est dans des métiers où il faut avoir confiance en l'autre. Bon, moi, quand c'est un de mes fils qui prend une décision, je sais qu'elle sera bonne. On va s'engueuler pour la prendre, on va se disputer, ça fait partie du jeu. Mais à la fin, bon, il y a un tel amour entre nous comme il y avait entre mon père et moi. Donc il y a de très belles sagas familiales dans l'hôtellerie, parce que c'est des métiers où il n'y a pas de rupture entre la vie professionnelle et la vie privée. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de soirée. On peut vous appeler à 2h du matin parce qu'il y avait un problème dans les villages du club. Un week-end, vous allez partir trouver des sites nouveaux. Si l'autre, si votre épouse, si la famille n'est pas d'accord là-dessus, ça part en clash assez rapidement. Voilà. Donc c'est une raison pour laquelle, encore une fois, les Pritzker, les Forte, les Oberoi, c'est au départ les Marriott de grandes affaires familiales. Après, moi, c'est vrai que je ne crois pas beaucoup aux consultants. Je crois plus en l'intuition de sentir. On a imaginé le Mama comme étant le lieu dans lequel on aimerait trouver lorsqu'on voyage. Un lieu facile, abordable, pas trop cher, avec une chambre de qualité, un beau design fait par Stark ou par d'autres par la suite. Voilà. Et c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné. Et l'histoire du Club Méditerranée, c'est une histoire d'intuition. Dans les années 50, la guerre vient de s'arrêter. Il faut être deux fous comme Gérard Blitz et Gilbert Trigano, pour proposer à des gens de partir, et les bureaux étaient à côté, à quelques mètres de cette rue Réaumur, pour leur proposer de payer à l'avance 3 semaines de vacances dans des endroits dont ils n'avaient jamais entendu parler. Parce que l'intuition de Gérard, l'intuition de Gilbert, voilà. Et c'est comme ça que ça marche, en tout cas que ça a marché pour nous.
Vous évoquez quand même, donc travailler en famille, on en parlait à l'instant, raconter une belle histoire. C'est celle, en effet, du Club Méditerranée et puis de Mama que vous évoquez à l'instant. On a besoin, dans le monde dans lequel on est, d'avoir en permanence cette belle histoire-là.
Moi, je crois que les marques ont besoin qu'on raconte une histoire. Le club racontait une incroyable histoire, hallucinante. On aimait ou on détestait. Il y avait autant de gens qui détestaient le club que de gens qui l'aimaient. D'ailleurs, on le détestait souvent quand on n'y avait jamais mis les pieds. Et puis, une fois qu'on y avait mis les pieds, je parle à NGO, on finissait par aimer. Voilà. Et Mama Shelter, il fallait raconter une histoire. Et le nom raconte son histoire. Shelter, c'est cette notion d'un abri ouvert à tout le monde, sans aucune ségrégation, quel que soit votre sexe, votre couleur de peau, votre religion, votre pouvoir d'achat. Vous êtes aussi bien reçu si vous venez manger une pizza à 10 euros que si vous faites un repas avec une très bonne bouteille de vin à 80 ou 100 euros. Donc il fallait raconter l'histoire de Shelter. Et Mama, c'est la femme qu'on a aimée ou qu'on aime le plus au monde. C'est notre maman qui nous nourrit, qui nous dorlote, qui s'occupe de nous quand on n'a pas le moral. Voilà. Et Mama Shelter raconte une histoire. Et c'est ce qu'on a fait dans cette deuxième partie de notre vie professionnelle.
On va y revenir.
Raconter une histoire.
Alors, je reste sur le thème du management que Johanna évoquait, en revenant sur quelque chose qui m'a à moitié surpris en lisant votre livre. Vous consacrez en effet de nombreuses pages à l'importance du choix des hommes et des femmes qui font tourner un business, à la motivation des équipes, à la fidélité, sans oublier d'écrire noir sur blanc que vous méfiez des consultants, vous l'avez dit à l'instant, en particulier ceux qui sont censés vous expliquer comment faire votre métier. Et au cours de ces récentes années, sans doute sous l'effet d'une mode, on a vu l'émergence de responsables du bonheur, ces fameux happiness managers dans les entreprises. On a vu le développement de tout un tas de concepts prétendument managériaux, mais dans les faits souvent fumeux, de management partagé, délibératif. Question toute simple, à quoi ressemblera ou devrait ressembler l'entreprise de demain ?
Là aussi, la question, si je savais, alors je me mettrais, pour le coup,
je me mettrais
consultant et je ferais fortune. Écoutez, l'entreprise de demain, elle sera, je crois, à taille humaine. Moi, je suis pas un fan du télétravail. Je crois qu'il a ses limites. Je crois que si on veut être créatif dans une entreprise, il faut qu'on se retrouve autour d'une table en train de prendre un café, en train de bouffer un sandwich et en train de discuter d'une stratégie, d'une créativité et autres. Voilà. Donc, il y aura un mélange d'énormes conglomérats et en même temps de petites entreprises familiales. Et je crois que la clé de la réussite, c'est vrai que ça sera notre capacité à attirer des talents. Aujourd'hui, on le voit, un certain nombre de gens hésitent à revenir dans nos hôtels, dans nos restaurants. On a pris goût à être payé à rien faire pendant un an et demi. Donc quand on leur dit qu'il faut revenir travailler, c'est vrai que c'est un peu difficile. C'est un choc culturel assez violent. Voilà. Bon, je pense qu'on va y arriver. L'idée, c'est de donner du sens à notre métier. Je crois que... Tant au club qu'au Mama, on a valorisé ces métiers, on les a anoblis, on a donné du sens à ces métiers qui peuvent être à la fois ridicules quand ils sont faits de façon un peu mécanique et sans âme et sans intérêt, et qui peuvent être formidables si on a plaisir à découvrir les autres, d'autres cultures et d'autres hommes et d'autres femmes.
Justement, puisque vous parlez du Club Med, impossible de ne pas revenir sur cette success story, le club fondé par votre père, Gilbert. Dans votre livre, vous résumez les choses avec la formule suivante. Dans les années 50, le club a totalement bouleversé son époque en redonnant du bonheur et l'envie de vivre et en révolutionnant les vacances, en permettant de faire découvrir d'autres univers, d'autres cultures et d'autres sports. Est-ce que c'était ça ? C'est toujours ça, le secret du Club Med, qui a été souvent copié mais finalement jamais égalé ?
En tout cas, c'était notre secret. Nous, aujourd'hui, le Club Med, comme vous le savez, est une entreprise différente. C'est un tour opérateur chinois. C'est un peu l'histoire est un peu différente. Mais celui que j'ai vécu, c'était ça. C'était effectivement une intuition de génie qui vient de Gérard Blitz, dont on a raconté mille fois qu'après la guerre, le gouvernement belge, il était de nationalité belge, lui a demandé de s'installer en Suisse et d'accueillir les gens qui sortaient des camps de concentration. Et c'est comme ça qu'est venu dans la tête de Gérard l'idée qu'il pouvait apporter du bonheur aux gens, les aider à se reconstruire. Et c'est comme ça qu'il lance l'idée du club et qu'il rencontre Gilbert et qu'ensemble, ils ont cette aventure incroyable. Les hommes et les femmes avaient vécu ce que nous ne connaissons pas, nous, des années de privation, d'horreur monstrueuse. Même aujourd'hui, quand on les raconte, on a du mal à les croire. Et donc, il y avait un formidable envie de vivre, de faire l'amour, de faire du sport, de faire la fête. Et c'est tout ce que le club leur a offert et a été à la fois une grande agence patrimoniale, puisque beaucoup de couples se sont faits au club, beaucoup de petits bébés sont nés au club, et en même temps une capacité de faire découvrir des sites les plus beaux du monde, puisque tout le monde reconnaît que Gilbert avait un don pour aller trouver les plus belles plages du monde dans tous les coins de la planète, et ça a été une des marques de fabrique du club.
Alors le Club Med, et on reste un instant là sur le produit phénoménal qu'a été le Club Med à son origine. Donc le Club Med, c'est tout un tas d'intuitions géniales, vous le disiez, hein, qui n'ont pas pris une ride avec le temps. C'est le fait que l'argent gâche les vacances, donc c'est l'invention du collier de couleurs pour éviter à se promener avec son porte-monnaie. C'est aussi l'invention du all-inclusive avec des buffets pantacruéliques, le tourisme vert avec des villages naturels, le fait que les enfants des gentils membres soit pris en charge, ou encore l'intégration de toute la chaîne de valeur, avec y compris le transport aérien que vous expliquiez dans votre livre à un moment donné, sans oublier l'humain avec les fameux géos qui accueillent et qui se chargent du bonheur au quotidien de leurs gentils membres. Bref, des concepts qui n'ont pas pris une seule ride. À la page 63, vous dévoilez au lecteur la méthode de Gilbert quand il part à la découverte d'un site qui pourrait accueillir un futur Club Med. Vous dites qu'il retroussait son pantalon, puis faisait quelques pas dans l'eau. Si le site était beau et que l'eau était bonne, alors les négociations pouvaient démarrer. Racontez-nous ça.
C'est absolument ça, quoi. Gilbert avait une équipe de garçons et de filles qui étaient des défricheurs. Et donc, quand ils décidaient de s'installer dans un pays, au Sénégal ou au Maroc ou autre, soit les autorités locales lui disaient, voilà, on a fait une sélection de sites et une première équipe allait reverrouiller les sites et refaisait une double sélection. Et ensuite, Gilbert, quand on lui disait, ben voilà, à Punta Cana, qui a été une des plus belles réussites du club, il y a trois plages. Les promoteurs voulaient mettre Gilbert sur une des trois plages. Gilbert a refusé parce qu'il a mis effectivement les pieds. La plage qu'on lui avait donnée n'était pas aussi bonne qu'il le souhaitait. Et il a trouvé la plus belle plage de Punta Cana, comme il a trouvé le même truc à Agadir, à Phuket ou au Cap Skirring ou au Maroc, à Marrakech ou ailleurs. Donc il avait ce don pour trouver les sites. Encore une fois, pas d'études de marché. Dans les grandes années du club, dans les années 70-80, là, quelques mètres d'ici, les chefs d'État ou les ministres du tourisme faisaient la queue pour dire « Moi, je veux mon Club Med », et ceux qui en avaient un, on voulait deux. Ceux qui en avaient trois, on voulait quatre. Voilà. Et Gilbert disait « Vous, l'année prochaine, vous, faudra attendre dans deux ans parce que j'ai pas le temps de venir chez vous. » Voilà. Et c'est comme ça que le truc s'est fait. Et le truc fabuleux, c'est qu'on sortait un Trident, donc l'outil magazine publicitaire du club. On disait, cette année, on ouvre Cap Skirring. Et les gens ne savaient pas où était le Cap Skirring. On disait, c'était au milieu de nulle part, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Ils y allaient et ils suivaient parce qu'ils avaient confiance dans la capacité du club de trouver les beaux sites. Quoi. Voilà. Et ça a été un des facteurs de réussite du club.
Et cette capacité d'innovation qu'on citait, le collier autour du cou pour pas avoir d'argent sur soi, le fait de proposer une nourriture abondante et diversifiée, c'était quoi? C'était le fruit de l'observation ou simplement du bon sens consistant à dire on est en vacances, il faut qu'on se sente bien, tout simplement?
C'est un mélange de tout. Dans l'innovation, une de celles qui a été le plus étonnante, c'est dans les années 70, fin des années 70-80, l'informatique commence à s'installer dans notre vie quotidienne et Gilbert décide de mettre des ateliers d'informatique dans les villages du club. Et là, les gars lui disent, ça y est, il est complètement devenu fou. Il n'y a plus rien à faire. Le mec est complètement malade mental. C'est fini. C'est la fin du club et tout. Et Gilbert fait acheter 4 ou 5 ordinateurs, les installe à Sicile, en Sicile, à Camarina. Et tout le monde éclate de rire en disant, le pauvre, malheureux, là, c'est l'âge, c'est la sénilité et tout. Et 8 jours après l'ouverture du village, le chef de village appelle et dit, écoutez, ou vous doublez les nombres d'ordinateurs, ou je ferme parce qu'il y a tellement de monde et c'est un truc passionnant. Et les vacances, c'est aussi ça. C'est une capacité de découvrir des choses nouvelles, de la vie, qui va nous aider à être meilleurs à notre retour. Voilà. Et le club, c'est ça. Ça a été à la fois des sports nouveaux, la planche à voile, le tennis, le golf qu'on a démocratisé.
La plongée sous-marine.
Et puis en même temps, des activités pour les adultes, pour les enfants. Et c'est ça qui était, encore une fois, une des marques de fabrique du club.
Ça donne très, très envie de partir en vacances.
Patience, Julien, patience.
Allez, on va va quand même faire une petite pause, des micro-vacances, le temps d'une musique, hein, puisque bien que nous soyons au seuil de l'été, et même c'est déjà l'été depuis hier, et qu'il fait chaud, eh bien on va parler froid et neige en ce beau mois de juin. On va marquer une pause musicale avec ce titre qui serait bien plus approprié pour un mois de décembre. Mais dans cette émission, on ne s'interdit rien. Hein. Nous sommes donc complètement à l'ouest, ne l'oublions pas. On va écouter Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, I've Got My Love to Keep Me Warm, que l'on pourrait traduire par J'ai mon amour pour me garder au chaud. On l'écoute, on revient juste après dans Complètement à l'ouest.
The snow is snowing, the wind is blowing, but I can't weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember the worst December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my gloves. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm.
Yes, snow is snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Yes, I can't remember our worst December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? Baby, I've got my love to keep me warm. Oh, off with my overcoat, off with my gloves. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm.
The snow is snowing, the wind is blowing, but I can't weather the storm, storm, storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles form. What do I care if icicles form?
Yes, off with my overcoat, off with my gloves. I need no overcoat, I'm burning with love.
My heart's on fire, the flame goes higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm?
C'était Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, I've got my love to keep me warm. On est de retour en studio pour Complètement à l'Ouest avec Philippe Boyer et avec Serge Trigano.
Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer.
Allez, on va ouvrir la séquence People qui ont toutes gravité dans ou autour du club méditerranéen. Il y a d'abord ceux qui feront leurs premières armes comme Patrick Bruel, Kad Mera, Anne Romanoff, Nicolas Canteloup, ainsi que les regrettés Eli Kaku ou Alex Métayer. Bref, le club c'était et CGO le meilleur agent pour lancer de nouveaux talents. Mais les célébrités que votre père ou vous-même avez rencontrées grâce au club, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, se comptent par dizaines, à commencer par le pape Jean-Paul II, le président israélien Ben Gourion, le roi du Maroc Hassan II, ainsi que d'innombrables chefs d'État, dont pour la France François Mitterrand, mais aussi Jacques Chirac. À propos de la rencontre entre le pape et Gilbert Trigano, il y a cette fantastique anecdote que je vous laisse raconter, tellement elle est savoureuse, et c'est à la page 81 de votre livre.
Oui, c'est une histoire incroyable. Un jour, la secrétaire de Gilbert lui dit « Le Vatican a appelé et le pape voudrait voir Gilbert, voudrait recevoir Gilbert ». On éclate de rire. Le club, c'est pas franchement dans les normes de la papauté du Vatican. On dit « Ok, très bien, que le chef de village qui a fait la blague soit gentil de nous faire savoir et on passe à autre chose ». Puis 8 jours après, ton un peu courroucé, ici le secrétariat de sa sainteté, le pape aimerait voir Gilbert. Alors là, Gilbert dit « C'est peut-être plus sérieux ». Donc il fait appeler ses contacts à Rome et à Milan et on confirme qu'effectivement, il y a une demande qui vient de la part du pape. Donc on essaye de se renseigner. Ce qu'on croit savoir, c'est que le pape Jean-Paul II était un grand sportif et que quand il faisait des balades en montagne, son coach était un GM du club qui a dû lui raconter un petit peu ce que c'était que le club, la ville, les trucs, les machins. Et donc le pape, qui était un type très curieux, dit ben, « j'aurais rencontré cet homme qui dirige cette boîte assez incroyable ». Et donc on se retrouve après...
Sur quelle année ?
C'est dans les années 80. Mmh. Et donc on se retrouve à Rome, au Vatican, et on est aligné en rang d'oignon. Et le pape va vers Gilbert et dit à Gilbert « Alors Trigano, dites-moi ce que c'est que votre métier ». Et Gilbert lui dit « Sa sainteté, mon métier consiste à regrouper des hommes et des femmes du monde entier dans les plus beaux endroits du monde et leur apporter un peu de bonheur ». Et le pape le regarde avec un grand sourire et lui dit « Mais alors Trigano, on fait le même métier ». Et il passe au gars d'à côté. Voilà.
Vous dites que votre père avait même eu pour projet de créer une université de la paix, projet qui sera finalement abandonné. Il aurait presque pu être prix Nobel de la paix.
C'était dans il aurait mérité, oui. C'était le conflit entre Israël et les États arabes et la Palestine. Et Gilbert avait en tête de se dire ce qui reste d'actualité aujourd'hui, c'est que cette région du monde est la plus belle région du monde pour nos métiers du tourisme. Entre Israël et les pays autour, que ce soit le Liban, l'Égypte, c'est des pays magnifiques avec une culture, une histoire incroyable. Et donc, le fait de mélanger ces deux mondes aurait été, enfin, c'était le plus beau monde touristique. Plus rien ne passait. Les Caraïbes, tout ça, c'était terminé. Voilà. Et donc, Gilbert s'était dit, il y a peut-être un moyen de faire la paix entre ces pays grâce au tourisme et d'essayer de faire une université de la paix et d'apprendre à de jeunes Israéliens, à de jeunes Palestiniens les métiers du tourisme. Voilà. Mais c'était une belle utopie et malheureusement, malgré les efforts de Sa Majesté le Roi du Maroc et d'un ensemble de gens, ça n'a pas pu se faire.
Vous parlez bien sûr d'entrepreneuriat dans votre livre, hein, on l'a déjà évoqué, mais aussi de famille, de tendresse, hein, d'affection à l'égard de votre père Gilbert et du reste de votre famille. Et puis il y a ce passage assez inattendu au cours duquel vous nous apprenez que votre père comparait les livres au voyage. Pour lui, c'était la même chose car l'un et l'autre offrent l'évasion. Et puis vous rappelez qu'il lisait beaucoup et toujours, qu'il avait été l'invité d'honneur de la fameuse émission littéraire Apostrophe, animée par Bernard Pivot, on s'en souvient évidemment. Émission au cours de laquelle votre père dévoila son amour pour la poésie, pour Baudelaire en particulier. Il avait même fait paraître une anthologie dédiée aux plus beaux poèmes de voyage. C'était aux éditions du Cherche Midi. Alors Gilbert, votre père avait-il l'âme d'un romancier aventurier à la Stevenson ou à la Jack Kerouac? Ou alors croyez-vous qu'il faille avoir les mêmes qualités pour écrire et entreprendre?
Non, je crois pas. Non, c'était son hobby, c'était sa passion, le livre et plus particulièrement la poésie. Maintenant, chacun d'entre nous peut réussir dans les affaires sans être nécessairement amoureux de la poésie ou même sans lire des livres. Ça fait partie de lui et c'est vrai qu'il ne pouvait voyager sans avoir un livre à portée de la main. Il ne pouvait s'endormir sans lire quelques lignes d'un livre et c'était assez bien calculé, les livres pour se coucher, les livres pour voyager, les livres pour travailler. Voilà, ça fait partie de son monde à lui et encore une fois, après, chacun d'entre nous peut se déterminer comme il le souhaite.
Alors, on ne se trompe pas beaucoup en disant que ce qui vous caractérise, c'est bien sûr la passion d'entreprendre. Il y a eu le club, on en a longuement parlé, cofondé par votre père, jusqu'à ce que vous accédiez à la présidence de l'entreprise. Il y a eu, et vous le détaillez dans votre livre, ce moment douloureux de votre éviction de la présidence en 1997. Et vous décrivez d'ailleurs en détail comment ça s'est passé. Et on vit la scène vraiment comme dans un film, voire comme un thriller. Puis les hauts et les bas, avec beaucoup de moments de doute, si l'on en croit vos écrits, jusqu'au rebond avec la création de la marque, avec une équipe passionnée, dont bien sûr vos deux fils, vous nous disiez tout à l'heure. Expliquez-nous pourquoi l'hôtellerie, est-ce que c'était un débouché naturel après le tourisme, après le Club Med? Pourquoi est-ce que soudainement vous êtes passionné par l'hôtellerie?
Peut-être c'est parce que c'est le seul métier que je connais à peu près. Enfin, c'était pas très loin des villages de vacances du club au monde de l'hôtellerie. Simplement, le Mama Shelter, c'est une adaptation du monde du club méditerranéen à notre époque. À l'époque du club, on partait 3 semaines en voyage, on allait très loin, on prenait du temps. Aujourd'hui, la durée de vacances s'est raccourcie. La durée moyenne, c'est 10 jours et beaucoup, beaucoup de week-ends. Et donc, quand on a essayé de voir comment on pouvait rebondir après le départ du club, on a pensé qu'effectivement, une hôtellerie de ville différente, ouverte à l'énergie, à la population locale, avec des restaurants qui seraient le cœur de nos hôtels,
pouvait avoir... Alors qu'on vous avait dit à l'époque, c'est une folie.
Ben, c'était jusqu'au moment où on est arrivé, honnêtement, enfin, c'était où on faisait de l'hôtellerie ou de la restauration, on faisait jamais les deux. Et d'ailleurs, Accor avait fait une règle très précise. Au mieux du mieux ou au pire du pire, on faisait des petits déjeuners, mais ça s'arrêtait là, quoi, voilà. Et nous, on a décidé de casser, alors peut-être parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose, on a essayé de casser les codes et de faire un lieu de vie et de dire à des hommes et des femmes, ben, on peut passer 2-3 jours dans nos hôtels. Il y a des concerts le soir, il y a des iMac dans les chambres pour voir des films, on peut se prendre en photo, on peut communiquer, on peut faire des séminaires, on peut faire la fête, on peut manger, on peut boire, on peut danser, voilà. Et on a retrouvé en petit un univers, on a recréé un univers et c'est ce qui nous a intéressé dans l'aventure du Mama Shelter. Ça nous a ébauché à un moment donné l'idée de refaire un nouveau club, mais honnêtement, ça offrait pas de grand intérêt. C'était plus intéressant d'aller plus loin et d'essayer de faire quelque chose plus en phase avec notre temps, et c'est comme ça qu'est né le Mama Shelter.
Un mot sur le développement actuel de Mama Shelter, les futures implantations, les futures ouvertures?
Alors aujourd'hui, il y a 13 mamas, pratiquement dans chacune des grandes villes de France. On est présent à Los Angeles, à Rio de Janeiro, à Belgrade, à Londres. Et on va ouvrir dans quelques jours un Mama à Rome, près du Vatican, pour se rappeler quelques souvenirs. On va ouvrir en novembre un Mama Shelter à Lisbonne. On va ouvrir en décembre un Mama Shelter à La Défense, qui sera le 3e Mama parisien. L'année prochaine, on espère ouvrir à Dubaï, Bahreïn, Bucarest. On vient de signer pour faire un Mama à Nice. On vient de signer un protocole d'accord pour faire un Mama à Dallas. On signe comme ça un certain nombre de projets. Il y a 13 mamas, une dizaine en construction et pas loin d'une autre dizaine en négociation.
Et ça, 13 ans après la création de la marque.
Absolument.
Au sujet justement de Mama Shelter, vous dites que jamais vos concurrents ne pourront égaler, je vous cite, la gentillesse de nos équipes, leur spontanéité, leur générosité, le plaisir pris à œuvrer tous ensemble. Et vous rajoutez plus loin que la famille Trigano, c'est avant tout de tisser une dimension affective et de partager des émotions avec nos équipes. Comment maintenez-vous intact cette dimension humaine qui fait manifestement votre force? Comme pour la confiance, c'est très long à construire et tout ça peut disparaître à jamais en quelques instants.
Si vous voulez, depuis la création du Mama Shelter, il s'est créé beaucoup d'hôtels dits lifestyle, qui sont un peu à l'image de ce qu'on a fait nous, de ce que Jan Schreger avait fait avant nous aux États-Unis. Simplement, ils ont pris que la partie design. Ils ne sont pas beaucoup occupés et de la partie humaine et de la partie restauration. Et nous, c'est vrai, alors c'est dans notre marque de fabrique.
L'ADN,
c'était valable au club et c'est valable au Mama. C'est dans la motivation des équipes, si vous voulez. On envoie un questionnaire à chacun de nos clients quand ils repartent du Mama, comme on le faisait encore une fois à l'époque du club. Ce que les gens retiennent, c'est le staff. Bon, une fois qu'on a dit que Stark est un génie, qu'Alain Sandorins ou que Guy Savoie font des plats formidables, bon, ce qu'on retient, c'est le sourire de la fille qui vous a accueilli, c'est la gentillesse du concierge qui vous a dépanné quand il y a un petit problème. C'est ça qu'on retient dans nos métiers. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a, nous, une capacité à s'entourer, à fédérer autour de nous des hommes et des femmes qui adhèrent un peu aux mêmes valeurs, d'ouverture sur les autres, de l'envie de servir. Moi, ce que je redis à chacun de nos équipes, je vais le dire à Rome dans 3 semaines quand on va ouvrir, restez avec nous si vous avez envie de servir l'autre. Si vous n'avez pas envie, ce que je respecte, faites un autre métier. On est dans les métiers de service. Est-ce qu'on a envie de s'occuper des gens qui vont nous demander 10 fois la même chose? C'est ça, ces métiers. Et moi, j'ai plaisir à le faire. Ça fait quelques années que je suis dedans et ça me convient. Je respecte ceux qui n'ont pas envie. Mais alors, je leur dis, allez travailler ailleurs. Et donc, ce qu'on a réussi à faire au club et ce qu'on a réussi à faire au Mama, c'est ça. C'est capacité à fédérer et à garder cet ADN d'une équipe en espérant que ça va continuer encore pendant de longues années.
On a démarré cette émission en vous interrogeant sur les éventuelles transformations post-Covid de l'hôtellerie. On va maintenant se tourner vers le futur. Qu'est-ce qui, selon vous, reste à inventer ?
Tout. tout. Dites-moi ce que sera notre vie demain et on réinventera les vacances de demain. Les vacances, c'est un peu l'antidote de notre vie de tous les jours. Donc si on vit au soleil ou si on vit demain comme on est en train de le faire en dehors des grandes villes, on aura sûrement des besoins différents de ce qu'on a aujourd'hui. Quand on vit au nord de l'Europe où il pleut tous les jours, on a envie de soleil. Si on vit toute l'année au soleil, on a peut-être moins ce besoin de soleil. On a donc d'autres envies. Donc ce qu'on essaye, c'est de voir un peu quelles sont les tendances de vie de demain. On lit beaucoup de choses. Est-ce qu'elles vont se réaliser ou pas? Encore une fois, l'enjeu du télétravail, l'enjeu de partir en dehors des grandes villes, vivre dans des maisons avec un petit bout de jardin pour les enfants. Si tout ça se réalise, et ça se réalisera en partie, ça modifiera certainement la donne des vacances. Mais l'envie du voyage, pour revenir au début et aux citations de M. Lévi-Strauss, restera intacte. L'envie de voyager, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres envies, d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres nourritures, je crois que ça restera intact. Et à mon avis, les fondamentaux vont rester ce qu'ils sont. Il y aura à la marge des modifications. On va être plus vigilant en termes d'environnement. On va faire un peu plus attention à cette fameuse couche carbone. On va essayer de voir quand on voyage. Mais là aussi, les choses vont bouger. Airbus est en train de travailler. On dit qu'en 2035, on aura l'avion à hydrogène. C'est demain. Je ne sais pas si je le verrai, mais c'est demain. Et donc, tout ça est en train de bouger dans le bon sens. Et c'est ça qui, à mon avis, est formidable pour le monde des vacances de demain.
Merci
infiniment, Serge Trigano, d'avoir été notre boussole pour cette émission qui nous a fait voyager, qui nous a fait rêver, qui nous a remis les pieds sur terre grâce à votre énergie, votre gentillesse et votre bon sens, des ingrédients précieux en ces temps un peu compliqués. Je le dis à nos auditeurs, si vous voulez découvrir de l'intérieur une saga entrepreneuriale et en même temps un livre de management, il faut lire Trigano Loves You, écrit par Serge Trigano en personne. C'est édité chez Albin Michel. C'est presque l'heure des vacances dont nous aurons le temps d'écouter ou de réécouter cette émission en balado-diffusion sur le site de Radio Wemo ainsi que sur tous les players de podcast. Merci Johanna pour cette co-animation pendant cette seconde saison et merci à toute l'équipe de Radio Wemo pour la préparation de cette émission et de ces émissions. On se retrouve sous peu pour de nouvelles aventures, une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. D'ici là, bon vent, cap à l'Ouest. Complètement à l'Ouest.
Mais il est complètement fou, ce mec!
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.